Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo. Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer. Comment en savoir plus sur l'écologie facilement ? Je vous propose donc, dans chaque épisode, de découvrir l'histoire de celles et ceux qui agissent pour un monde plus durable. Entrepreneurs, intrapreneurs, activistes, ils agissent avec passion aux quatre coins du monde. En France, bien sûr, mais sur tous les continents, pour nous permettre d'espérer demain un monde plus durable. Quelles sont leurs solutions ? Pourquoi ont-ils décidé de se lancer ? Quels sont leurs conseils pour agir à notre échelle ? Écouter, lire ou s'éduquer sur ces enjeux, c'est déjà agir pour un monde plus durable, car il nous permet d'en parler avec conviction autour de nous. C'est ce que j'espère vous apporter lors de chaque épisode. Si vous souhaitez soutenir ce mouvement, et si vous aimez le podcast ou l'épisode du jour, n'hésitez pas à taguer Demain est durable sur LinkedIn ou sur Instagram, ou à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Caco Naitali. Comment tu vas, Caco ?
Bonjour, écoute, ça va très bien, merci, et toi ?
Ça va très très bien, je suis très très content de t'accueillir aujourd'hui sur les recommandations de Maxence Cordier, que j'avais pu interviewer notamment sur le sujet du nucléaire, que je vous recommande d'écouter. Je vous mettrai bien entendu le lien de cet épisode avec Maxence qui était passionnant sur le sujet. Aujourd'hui, on va pas parler de nucléaire. On va parler d'un dérivé d'une énergie, à savoir le plastique. Le plastique plus concrètement, puisque tu es experte sur le sujet, je te laisserai bien entendu le temps de te présenter juste après. On va parler de plastique, on va comprendre un peu qu'est-ce que c'est déjà, comment est-ce que c'est composé, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on est arrivé à avoir cette situation-là avec le plastique, comment est-ce qu'on peut faire peut-être aussi pour transitionner sur ce sujet-là, et surtout comprendre... Est-ce qu'il y a un problème avec le plastique ? Et ça, c'est le vrai gros sujet d'aujourd'hui que j'aimerais aborder avec toi. Mais avant d'aborder cette quantité de questions et de pouvoir te passer sur le grill, on va dire, du podcast Demain est durable, je te propose de te présenter, Caco. Donc, qui es-tu ?
Oui, alors, donc je me présente, donc Caco Naitali. Alors, Caco, c'est mon prénom. C'est original, mais c'est mon prénom. Je suis donc ingénieur et docteur en chimie des matériaux. Alors, je suis spécialisée dans ce qu'on appelle les polymères, c'est-à-dire les plastiques. Peut-être qu'on y reviendra pour expliquer un peu ce que c'est. Et plus précisément sur la manière dont ils se dégradent, en fait. C'est-à-dire comment ils se dégradent, que ce soit dans la nature ou dans le génie civil ou ailleurs. Voilà, c'est un peu ma spécialité. Ça fait combien ? Ça doit faire une quinzaine d'années maintenant que je travaille dans le domaine du génie civil et d'énergie. Et avant ça, j'ai fait une thèse sur un truc qui n'a absolument rien à voir, sur le recyclage des bouteilles en plastique dans l'emballage alimentaire. Voilà. Et donc c'est très très d'actualité, hein. Voilà. Et c'est ce qui m'a permis de bien comprendre, l'impact des déchets, que ce soit sur l'environnement, sur l'industrie, etc. La nécessité de recyclage aussi, et je pense qu'on va en parler, hein. Et donc, à partir de cette thèse-là, travailler dans le génie civil, le lien, c'est le matériau. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise le même matériau, que ce soit dans l'emballage, dans le génie civil, ou dans l'énergie, dans plein d'autres domaines. Voilà. Et donc, c'est ça que je trouve fascinant. C'est-à-dire que d'avoir une expertise dans un domaine, les matériaux, et pouvoir travailler dans énormément d'applications différentes. Voilà.
On va essayer de se concentrer sur certains d'entre eux, parce que sinon, même si ce serait passionnant, j'imagine qu'on, ça devait, enfin, si ça fait l'office de différentes thèses, etc., etc., c'est que ça doit prendre aussi du temps d'en parler. Je te propose déjà, avant de démarrer, de pouvoir redéfinir un peu. J'aime bien parler sur une définition, ce qu'est le plastique concrètement. Tu parlais de polymère avant, donc d'abord redéfinir ce qu'est le plastique, comment est-ce que c'est créé, d'où ça vient. Pourquoi peut-être on utilise autant de plastique avant peut-être de parler de ces différents types de plastique. Je ne sais pas si c'est une bonne manière de le dire d'un point de vue technique qui peut exister.
Alors on va commencer par le polymère du coup. Pense que ça sera plus simple. En fait, les plastiques, ce sont des polymères et des additifs. Alors les polymères, qu'est-ce que c'est ? Ce sont de longues chaînes carbonées. Donc ce sont des matériaux constitués de longues chaînes carbonées qui vont avoir des propriétés différentes en fonction de la manière dont cette chaîne va être construite. C'est un peu comme un collier de perles. On va mettre des perles qui vont être soit toutes les mêmes, soit différentes les unes des autres. Ça va créer une matière qui va avoir certaines propriétés. Alors les polymères, on les retrouve dans la nature. Par exemple, l'ADN, la cellulose, ce sont des polymères naturels qui existent dans la nature. On peut créer, enfin l'homme crée ce qu'on appelle des polymères artificiels, c'est-à-dire qu'on va venir chercher les polymères naturels, la cellulose par exemple, on va légèrement la modifier et on va obtenir quelque chose avec des propriétés légèrement différentes sans complètement toucher à la chimie de la matière. Et après, on a quelque chose d'encore plus différent, c'est ce qu'on appelle les polymères synthétiques, donc qui n'existent absolument pas dans la nature, que l'homme va créer, vraiment créer, et c'est ce qui constitue les plastiques, en fait. Ce sont des chaînes carbonées qui n'existent pas dans la nature. Généralement, on récupère les molécules, créer ces chaînes, à partir du pétrole. En fait, elles viennent du pétrole, de ce qu'on appelle le naphta, qui est extrait du pétrole. Et donc, ce polymère synthétique auquel on va ajouter des additifs, c'est ce qu'on appelle un plastique. Voilà. Et donc, juste un petit exemple, cette fameuse chaîne carbonée et ces petites perles, hein, qui constituent ce collier, cette chaîne, le polyéthylène, que tout le monde connaît, en fait, c'est une chaîne où la perle, c'est de l'éthylène. Et on l'appelle poly, plusieurs, éthylène. Voilà. C'est comme ça, en fait, qu'on constitue un plastique. Et là où je pense qu'il y a une certaine difficulté à comprendre ce que c'est que il y a je dirais pas une infinité, mais pratiquement une infinité de plastiques, en fait. C'est-à-dire qu'on peut créer un plastique à partir d'un besoin. On prend un polymère, on prend les additifs qu'on souhaite, pour créer une matière avec des performances que l'on souhaite. Ça peut être une couleur spécifique, ça peut être une résistance mécanique, ça peut être une résistance à l'eau, ça peut être plein de choses. Ça peut être une flexibilité, une dureté, une transparence. Et donc, c'est pour ça que c'est assez difficile, si tu veux, comment dire, de cadrer véritablement ce que sont les plastiques, à part dire que ce sont des polymères synthétiques dans lesquels on va ajouter des additifs. Et donc on les utilise. Oui, vas-y, je t'en prie.
Non, et ces différents additifs, du coup, ils sont tous issus du pétrole. Du coup, il y en a un peu une infinité, ce que tu disais. On va choisir un peu les différents additifs pour ensuite les mettre entre eux pour créer différents types de plastique, on va dire.
Oui, les additifs, on peut avoir ce sont généralement des molécules qui peuvent venir du pétrole, mais ça peut aussi être des charges minérales, par exemple du talc, tu vois, ce genre de choses. Ou bien des colorants, ça peut être aussi des colorants. Donc ça peut être vraiment très très large, en fait, hein. Et ces additifs, ça peut être aussi ce qu'on appelle des plastifiants pour rendre le plastique souple, qu'on retrouve parfois dans le PVC, ce qui nous permet, en fait, de par exemple de fabriquer des ballons en PVC, ce genre de choses. Donc ouais, c'est très très vaste, en fait.
Et donc si je reviens du coup sur ce, merci Jéga d'avoir récapitulé comprendre à peu près ce qu'est le plastique. Quels sont les plastiques, les types de plastiques, disons, qui sont les plus courants, qu'on connaît le plus. Donc tu parlais juste avant d'un d'entre eux, ceux qu'on doit connaître, disons, avant de démarrer et de les comprendre, peut-être pas en détail chacun d'entre eux, mais
Non,
comprendre les spécificités.
les principales caractéristiques, alors ce qu'on appelle le polyéthylène, par exemple, ce qui permet de fabriquer des films souples. On a le PET, un peu plus compliqué comme nom, polyéthylène terephthalate, un peu plus complexe. Mais c'est ce matériau-là qui permet de fabriquer des bouteilles en plastique ou des barquettes en plastique, par exemple. On a le PVC qui permet de fabriquer des tuyaux rigides ou bien des films souples pour fabriquer des ballons. Et on a aussi le polystyrène qu'on connaît, hein, qu'on a parfois dans certains emballages, dans certains cartons. Ce sont les principaux plastiques qu'on utilise aujourd'hui, en fait. Voilà.
Et quand est-ce qu'on a démarré à utiliser, disons, ce plastique-là, à commencer à industrialiser ce matériau qui est utilisé mondialement?
Alors, le plastique synthétique, je dirais, a été créé au début du siècle dernier et il a vraiment été industrialisé dans les années 50. Vraiment, c'est là où commence à avoir une courbe qui monte très très vite en termes de production. Et pourquoi? Parce que c'est vraiment le moment où on a commencé à se dire, voilà, on a un nouveau matériau qui peut nous changer la vie, en fait, en tant que consommateur, dans l'industrie également, et faire avancer énormément de choses, dans le médical, les transports, la construction, etc. Mais dans la grande consommation, par exemple les emballages, hein, ça a juste changé la manière dont on consomme. Parce que ça a permis de conserver les aliments beaucoup plus longtemps qu'avant. T'es pas obligé d'aller faire les courses 3 ou 4 fois par semaine. Voilà. Donc c'est vraiment là où on a eu un boom, et aussi pour tout ce qui est textile. Ça a permis de remplacer les matières naturelles qui étaient froissables, etc., pas faciles à entretenir, avec des matières synthétiques, pas très chères en plus, hein, c'est un matériau qui est pas cher et pas très difficile à produire, et qui se froisse pas, qui est léger, etc., etc. Donc en fait, le fait de pouvoir moduler ses propriétés a fait que son utilisation a juste explosé dans les années 50.
Tu parlais juste avant d'un type de plastique, par exemple, qui est, enfin, comme dans l'emballage alimentaire, où ça nous permet justement de pouvoir l'utiliser plus longtemps, de le conserver, etc. Comment est-ce qu'on faisait avant pour conserver ces différents aliments?
Alors, on utilisait des boîtes, on utilisait le froid aussi, hein, voilà, on utilisait le sel, enfin, il y avait d'autres méthodes, mais la conservation n'était pas aussi importante que celle qu'on a aujourd'hui. En fait, c'est un peu comme quand vous allez chez votre boucher, vous achetez de la viande, vous pouvez pas la garder 15 jours, quoi. C'est pas possible. C'est exactement la même chose. Là, quand c'est sous vide, vous multipliez par 2 voire 3 la durée de consommation. Donc, c'est comment dire, le mode de comment dire de conservation des aliments était très archaïque. Aujourd'hui, on peut dire ça, mais assez basique, voilà. Et finalement, ça, comment dire. Ça veut pas dire que derrière c'était un problème. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est juste que ça a changé notre manière de consommer, mais c'était pas forcément un problème. Voilà. Le fait d'aller faire ses courses tous les 2-3 jours, pas forcément compliqué. C'est simplement que, en fait, le fait de changer notre mode de consommation a aussi changé la manière dont on nous propose finalement les produits de consommation, dans les grandes surfaces, etc., ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc en fait, tout ça est lié, mais ça ne veut pas dire qu'on pourrait pas vivre aujourd'hui avec moins d'emballage. Enfin voilà, faut pas se dire que l'emballage c'est un besoin ultime. C'est important parce qu'en fait, on consomme plutôt à l'international et des produits qui viennent un peu partout, etc. Maintenant, si aujourd'hui on veut consommer plus en local, plus de saison, avec une consommation vraiment, quand je dis local, c'est que on va voir le commerçant de proximité, etc. Dans ces cas-là. Il n'y a aucun problème pour revenir à, comment dire, à moins de plastique, même s'il serait toujours là, mais à beaucoup moins d'emballage. Voilà. Donc le retour, on va dire, à quelque chose d'intermédiaire est possible. Voilà.
Par rapport à ces plastiques-là, donc on a intégré, disons, grâce à, enfin, avec ces différents emballages, avec et d'autres types de besoins, que ce soit, comme tu disais, par rapport au textile et autres, ce matériau dans notre quotidien, hein, depuis de nombreuses années maintenant. Depuis quand on se pose la question des méfaits, disons, du plastique, notamment par rapport, parce qu'avant de parler de la partie recyclage, recycler, etc., on va longuement aborder. Depuis quand on se pose cette question-là? Est-ce que tu as un peu une idée sur ça?
Oui, oui. En fait, les premières études sur les microplastiques datent des années 70-80. C'est juste que ça c'est resté dans la communauté scientifique. Tout ce qui est également toxicité de certains additifs, ça c'est pareil, ça fait un moment quand même que c'est étudié, et c'est d'ailleurs grâce à ces études qu'aujourd'hui il y a des interdictions au niveau européen sur certaines molécules. Donc parce que ça prend du temps quand même, hein. La science prend du temps, il faut lui laisser le temps. Mais ouais, c'est pas si récent que ça. Après, ça a été très médiatisé il y a quelques années là. Je crois que c'est autour des années 2016-2017, quelque chose comme ça, où là on a eu une explosion finalement de comment dire de demande de compréhension de du grand public de ce qui se passe avec les plastiques. Est-ce que ce sont des matériaux toxiques? Est-ce que ce sont pas des matériaux toxiques? Quels sont leurs impacts sur l'environnement, sur la santé humaine, etc. Mais avant ça, ça ne veut pas dire qu'on s'en occupait pas et que personne travaillait dessus. Au contraire, ça fait très longtemps que les scientifiques travaillent sur le sujet. Là maintenant, ils se réorientent vers comment dire. Des sujets d'études qui correspondent plus, je dirais, aux sujets d'actualité, notamment les microplastiques, les nanoplastiques, mais ils ont quand même commencé à les étudier avant. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'articles qui datent des années 80, 90, 2000, quoi.
Ok. Merci déjà pour ce récap là. Je pensais que c'était J'aurais imaginé que t'es plus récent que ça. Donc c'est intéressant de voir que ça a pris quand même le temps. Et comme tu disais, hein, j'en parlais aussi avec Heidi Sevry sur un autre sujet complètement, la glaciologie, etc. En effet, la science avance à son rythme et on va très très vite sur pas mal de sujets. Donc c'est aussi pour ça que ça prend aussi ce temps-là. Donc faut l'accepter aussi. Par rapport justement à au danger, à la toxicité, etc. Est-ce qu'il y a différents types de plastique qu'il faut comprendre sur ce sujet, qui sont plus ou moins dangereux, plus ou moins toxiques, plus ou moins impactants pour l'environnement, pour l'homme, etc. Ou tous sont un peu les mêmes, finalités, spécificités.
En fait, un plastique est conçu pour un usage. Donc, par exemple, si un plastique d'emballage n'est pas conçu pour aller au micro-ondes, faut pas le mettre au micro-ondes. Par exemple. Parce que ça veut dire que potentiellement, il peut soit se dégrader, soit les additifs vont diffuser dans l'aliment. Enfin, il n'est pas fait pour, en fait. Donc, il faut pas le faire. Donc, je dirais simplement que, en fonction de l'usage, si on reste dans l'usage, et si on comprend bien cet usage, normalement, il n'y a pas de problème puisqu'il est testé pour. Après, effectivement, il y a des plastiques qui vont contenir plus d'additifs. Par exemple, le PVC, il va contenir des plastifiants. Ces plastifiants, certains sont des perturbateurs endocriniens. Donc, en Europe, c'est réglementé. Maintenant, quand on achète un ballon qui vient de Chine ou d'ailleurs, la réglementation n'est pas du tout la même. Donc, potentiellement, on peut avoir un ballon qui est, par exemple, un peu suintant en surface. Ça, ce sont les substances qui se mettent en surface et donc, ensuite, on les a au contact des doigts, etc. Donc, clairement, moi, ce que je conseillerais plutôt, c'est de se fier à la réglementation européenne parce que, généralement, les produits qui sont mis sur le marché suivent un processus en fonction de l'usage. Donc, par exemple, tout ce qui est usage pour les contacts des enfants ou pour le médical ou pour la consommation humaine, l'alimentation, les règles sont très strictes. Et donc, on va pas retrouver des produits qui sont potentiellement dangereux pour la santé humaine. Voilà. Donc, c'est ça, moi, que je recommanderais, c'est de faire très, très attention à ce qu'on peut importer, voilà, comme produit, et rester sur vraiment ce qui est produit en Europe, quoi.
Ok, donc c'est vraiment donc, par exemple, tout ce qui va être produit en dehors de l'Europe, enfin, notamment dans d'autres pays, sans les citer, peut y avoir potentiellement un impact ou en tout cas des trous dans le filet, disons, sur certains sujets de toxicité et autres, quoi.
Ah oui, tout à fait. Et puis la répression des fraudes le constate assez régulièrement. La réglementation n'est pas du tout la même. Et pas que sur des produits chimiques type substance, ça peut être sur d'autres choses, mais sur les plastiques en particulier, sont vraiment des produits, on va dire, courants, etc. On se dit, bon, bah, je vais acheter un truc dans tel pays à l'export. En fait, on sait pas ce qu'il y a dedans. Et je pense que le consommateur est pas un chimiste. Donc, même en lisant l'étiquette, il va pas se dire, ah, tiens, ça, c'est problématique. Donc, voilà, je pense qu'il faut faire attention. Et puis, surtout quand on est sensible, etc., ouais, il faut faire très, très attention à rester sur des gammes qui sont européennes. Après, qu'est-ce qui peut être dangereux potentiellement? Alors, si un plastique se retrouve dans l'environnement, c'est-à-dire qu'il s'y retrouve d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas dire que quelqu'un l'a jeté dans l'environnement, mais voilà, donc il s'y retrouve. Il n'est pas fait pour être dans l'environnement. C'est une matière, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on a créée. Elle n'existe pas dans la nature. Donc, il n'y a pas d'organisme qui peut le dégrader. Ça va se dégrader par les UV, par l'eau, par l'abrasion, etc., mais ça ne va pas se dégrader très très vite. Ça peut mettre des centaines d'années à se dégrader, parce que, encore une fois, c'est pas une matière qui existe dans la nature. Certains micro-organismes peuvent les dégrader, mais c'est tellement lent qu'en fait, on peut pas considérer que c'est biodégradable. Donc, ça va avoir un impact parce que tous les additifs vont diffuser dans la nature, dans le sol, etc. Ça va se dégrader assez vite sous forme de micro-plastique, forme de petits morceaux. Ça va diffuser dans les sols, ensuite ça va aller dans les rivières, etc., grâce à l'eau, en fait, hein, qui s'est infiltrée dans le sol, et en fin de course, dans l'océan. Donc, en fait, une matière que l'on crée, ou que l'on crée pas d'ailleurs, mais qui vient de la consommation humaine, que ce soit un plastique ou autre chose, ne doit pas se retrouver dans l'environnement, parce qu'il y a des conséquences, que ce soit sur la biodiversité ou sur l'environnement en lui-même, c'est-à-dire que ça va s'accumuler au fur et à mesure du temps. Par exemple, tous les déchets qui se retrouvent dans l'océan, parce qu'ils y sont jetés, on ne peut pas nettoyer l'océan. C'est pas possible. C'est trop grand, trop vaste, juste impossible. Donc, il faut arrêter, fermer les robinets et arrêter d'envoyer les déchets dans les océans. Une fois qu'on aura arrêté ça, on a encore du boulot, hein, peut-être qu'on pourra enlever, certains plastiques qui restent en surface, mais tout le reste, c'est le mal est fait en fait. Voilà.
Donc ça veut dire que la chaîne, disons, de au moment où le plastique se retrouve dans la nature jusqu'à un point donné, une rivière, un océan, etc. Le plastique se dégrade, enfin se fait potentiellement dégrader par différents organismes qui arrivent à dégrader une partie d'entre elles. Ça devient de plus en plus petit, donc ça devient des microplastiques, en gros c'est ça. Et après ça se déplace assez facilement avec le vent, avec l'eau. C'est en gros à peu près ça le chemin, disons, des différents plastiques.
Oui, et puis faut savoir que 80% des déchets, qu'ils soient macro, micro, se retrouvent dans l'océan, viennent des terres. C'est-à-dire que c'est pas jeté au niveau des côtes, hein. Ça vient vraiment des terres et c'est charrié par les rivières, les fleuves. Donc oui, effectivement. Donc soit ça reste sur place et ça va se dégrader sous forme de microplastique, soit ça s'envole, comme par exemple les films plastiques, ça s'envole très très facilement, et là ça peut aller dans une rivière et s'entraîner dans l'océan. Mais quoi qu'il arrive, oui. À un moment donné, ça va s'y retrouver. Voilà. Une partie qui reste sur place et une grande majorité qui se retrouve dans l'océan.
Et je voulais revenir juste un peu en arrière avant de parler de recyclage, etc. Tu parlais avant de choisir potentiellement ces plastiques, ou en tout cas ce qu'on va acheter par rapport à l'endroit où c'est produit, donc Europe, où on a beaucoup de réglementations et heureusement par rapport à d'autres endroits. Comment est-ce qu'on fait pour savoir d'où vient le plastique? Je ne sais pas si sur l'alimentaire on a cette information-là ou pas. Où est-ce qu'on se chope cette idée, enfin cette information plutôt?
Alors, à partir du moment où c'est vendu dans une grande surface, normalement ça c'est cadré. Là où il y a le plus de risques, c'est quand c'est vraiment importé, on commande sur Internet et on se fait livrer des choses. Là, c'est il y a moins de. Après, sur l'origine des plastiques qui sont utilisés dans d'autres éléments comme par exemple les jouets, ça peut être quand même assez important, ou d'autres objets. Là, normalement, c'est précisé dans l'emballage, sur l'emballage, hein, d'où ça vient. Donc, a priori, c'est précisé. L'origine du matériau doit être précisée. Mais effectivement, pour tous ces éléments-là, il vaut mieux acheter dans un magasin ou un site en France ou en Europe, quoi. Voilà. Faut éviter les impôts.
Ok, très bien. Si je reviens juste sur les différents microplastiques dont on parlait juste avant, donc le plastique se dégrade, ça vient dans l'environnement, mais est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des tu parlais juste avant de perturbateurs endocriniens, etc. pour d'autres sujets, PVC et autres, sur les emballages alimentaires, parce que je sais que tu as fait une thèse aussi là-dessus, t'en parlais juste avant. Est-ce qu'il y a un risque de dans le plastique en tant que tel, je sais pas, on a une bouteille d'eau, on a un yaourt, on a, voilà, je dis un peu au hasard, de prendre un peu de plastique basé sur la dégradation de ce plastique-là lorsqu'on va ingérer ces éléments, ou pas du tout. Ou est-ce que ça vient après, dans le sens où ça vient quand l'objet est ensuite fini, jeté à la poubelle ou pas, recyclé par recyclé et ensuite fini dans la nature, c'est à ce moment-là qu'on va ingérer une partie d'entre eux.
Alors sur les emballages,
Ouais.
y a pas ce genre de produit, hein.
Ok.
Mais la réglementation fait qu'on limite énormément le type d'additif qui peut être utilisé. Ce qui peut rester éventuellement, c'est des traces de certaines molécules. Enfin, ça peut rester éventuellement, mais l'ingestion, elle est pratiquement nulle en fait. C'est vraiment en très très faible quantité. Là aussi, il y a des études. Alors il y a une espèce de battle entre certains scientifiques. Enfin, bref, toujours des Bah, le consensus, hein, scientifique, c'est toujours un peu compliqué. Mais effectivement, tout ce qui est sur le marché est testé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est testé, c'est qu'est-ce qui diffuse dans l'aliment, en fonction des conditions. Imaginons que j'ai un plastique avec de l'aliment à l'intérieur et ça se chauffe au micro-ondes. L'essai va se faire en chauffant micro-ondes. Voilà, ça va pas juste faire avec un peu d'eau, un peu d'alcool, et puis on va voir ce qui diffuse. Non, non, c'est vraiment dans les mêmes conditions. Et donc ça permet de dire, j'ai quelque chose qui diffuse. Il va dans l'aliment, un additif qui sort du plastique et qui va dans l'aliment ou pas. Voilà. Et en fonction de ça, il y a l'autorisation de mise sur le marché ou pas. Voilà. C'est pour ça aussi que, on va reparler du recyclage après, hein, mais c'est pour ça aussi que on est limité dans le recyclage des plastiques. C'est à cause de ce genre de problème. Mais j'en parlerai tout à l'heure, du coup,
Ben, très bien, on enchaîne sur le recyclage justement. Ben, je voulais te poser une question un peu globale, mais tu commences à y répondre, savoir est-ce que tous les plastiques étaient recyclables ou pas. Et avant de parler de où est-ce qu'on en est, etc., en pourcentage, mais ça c'est encore un autre sujet. En reprenant la base déjà, est-ce que tous les plastiques sont recyclables globalement?
Et tous les plastiques sont recyclables, mais recyclables techniquement. Après, il faut une filière. Et puis, c'est la recycler. Et donc, c'est là où En fait, c'est là où la terminologie est recyclable ou pas. En fait, en fonction des personnes avec qui on parle, elle est différente. Personnellement, j'estime qu'à partir du moment où il n'y a pas de filière, c'est pas recyclable, même si techniquement c'est possible. La difficulté qu'on a, c'est que, en fait, il y a une filière par type de plastique. Donc, une filière pour PET, une filière pour PE, PVC, etc. Par exemple, pour les emballages alimentaires, c'est comme ça. Mais, imaginons, on a un PET qui est transparent et un autre qui est coloré. Il faut deux filières. Pourquoi? Parce qu'en fait, la couleur est importante, parce que quand on mélange les couleurs, à la fin, il faut que le produit puisse être utilisé pour fabriquer autre chose. Et donc, généralement, on les sépare par couleur, par type d'additif, etc. Et là, vu le nombre de plastiques qui existent sur le marché, si on avait une filière par type, on s'en sortirait pas. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on essaie d'optimiser. Et quand on optimise, on réduit la qualité de la matière recyclée. Je donne un exemple. Je recycle tout ce qui est coloré bleu, vert, les bouteilles d'eau, par exemple. À la fin, bah, j'ai un espèce de bleu-vert intermédiaire, quoi. Mais c'est pas hyper régulier, parce que ça va dépendre de ce que je vais recevoir comme bouteille et la couleur que de ces bouteilles-là. Et donc, leur usage après, derrière ça, elle va être assez complexe. Et généralement, on les utilise pour fabriquer des textiles. Alors que tout ce qui est transparent, bon, bah, c'est transparent, hein, donc à la fin, on pourrait utiliser ce plastique transparent pour fabriquer d'autres emballages transparents. C'est pas un souci. Donc, ouais, c'est l'optimisation des filières, c'est un sujet. Et il y a aussi autre chose, c'est que quand on a plusieurs plastiques qui sont collés ensemble, etc., on peut pas les recycler. En fait, quand il y a plusieurs matériaux, quand on a un emballage avec plusieurs matériaux, si on n'arrive pas à les séparer facilement pendant le procédé de recyclage, on considère que ce n'est pas recyclable. Je vais donner un petit exemple, là, je pense que ça va parler à tout le monde. C'est les briques en carton. Alors, les briques en carton, elles sont constituées de carton, d'aluminium et de plastique, en fait. Donc, il y a une couche de carton, deux couches de plastique et une couche d'aluminium. La partie aluminium et plastique, elle va être séparée, mais elle peut pas être recyclée. Donc, elle va être utilisée plus ou moins pour fabriquer quelque chose, mais en gros, c'est parce qu'il n'y a pas trop le choix. Mais on peut pas les séparer. Et la partie carton, on va pouvoir en récupérer qu'une partie. C'est très difficile de recycler une matière, enfin un produit qui est constitué de plusieurs matières. Donc, pour qu'un emballage ou n'importe quel produit soit recyclable, il faut qu'il soit constitué d'un seul matériau unique. Voilà. Donc quand on me dit on va remplacer des bouteilles en plastique par des briques, je trouve ça juste pas logique. En termes de recyclage, je veux dire, hein, que c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc voilà, il faut regarder en fait que le fait que le recyclage devient très compliqué dès qu'on complexifie la matière ou le produit. Voilà. Et donc c'est là où l'éco-conception joue. C'est-à-dire que l'industriel doit se dire, bon voilà, je conçois mon emballage, il faut qu'à la fin ce soit recyclable dans les filières qui existent aujourd'hui. Voilà. Faut pas qu'on crée une filière pour l'emballage que je vais mettre sur le marché. Et c'est là où c'est un peu, on en est au début, quoi. C'est un peu compliqué.
Et par rapport justement à ces filières-là, quelles sont les filières qui existent? Est-ce qu'on, enfin, quand on, je sais pas si on prend, on dit l'ensemble des différents types de plastique, c'est 100. Est-ce qu'on, enfin, je
Ouais.
prends des chiffres très, très, très globaux, si on dit que c'est 100, ou il y a combien de filières qui sont 100 en termes de, excuse-moi, le 100 égale le poids, disons, du nombre de plastique qu'on produit, etc., etc. Quelle proportion on a de cette quantité de plastique-là qui peut potentiellement être recyclable selon toi. Alors c'est très global, voilà. C'est pas genre, j'imagine qu'il y a des études peut-être dessus, etc. Mais c'est plus, tu vois, des ordres de grandeur. Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 50? Est-ce que c'est 90? Est-ce que c'est un peu dans ces types de...
Alors le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça évolue parce que d'ici 2035, il faut que tous les plastiques, les emballages plastiques entrent dans une filière. Sinon, ils seront plus utilisés. Donc du coup, on se rapproche du 100, quoi. Enfin, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a, par exemple, le polystyrène. On n'a pas encore de polystyrène, pardon, pour les pots de yaourt, je vous précise. Aujourd'hui, on n'a pas de filière. Elle est en train de se construire et on l'aura d'ici 2035. Donc aujourd'hui, les pots de yaourt, ils sont brûlés, ils sont incinérés. Voilà. On les met dans la poubelle de tri parce que c'est important d'avoir ce geste, mais ils sont incinérés. Par contre, tout ce qui est bouteilles, les bouteilles d'eau, ça fait très longtemps qu'on les recycle. Hein. Donc là, on pourrait arriver à 100% si tout le monde mettait ses bouteilles dans la poubelle de tri, ce qui n'est pas le cas. Et pour tout ce qui est film plastique, ça fait quoi? Ça va faire 2 ans maintenant qu'on les trie, pas plus, hein. C'est très très récent. Donc ça commence à augmenter, mais en fait, on pourrait tous les recycler. C'est juste que bah, pour recycler, il faut pouvoir récupérer, collecter en fait ces emballages-là. C'est là où on a la difficulté. Mais on n'est pas très loin des 75%, je pense, aujourd'hui, hein. Il doit y avoir une quinzaine de pourcents qui est un peu voilà, entre deux, et il y a un petit pourcentage qui n'est pas du tout recyclable, comme par exemple les sachets de chips qui ne sont pas recyclables.
Ok, pas recyclable parce que c'est un type de plastique, parce que je vois, quand je m'imagine un paquet de chips, je vois du coup le partie colorée et la partie aluminium à l'intérieur. Voilà,
c'est
et du
ça.
Coup, c'est cette partie-là qui fait que c'est pas recyclable en fait.
Des multimatériaux.
Ouais, ok.
Donc ça se recycle pas, on peut pas les séparer. Voilà.
Ok. Ok. Et donc quand tu dis multimatériaux, ça veut dire que c'est quand c'est par exemple aluminium et plastique, ou c'est également quand c'est différents types de plastique qui sont entre eux. Est-ce que là aussi tu as une complexité?
Oui, ça peut être plusieurs plastiques. Par exemple, les marquettes de jambon. C'est un vrai petit exemple. Je dois avoir plein d'exemples.
On va tous les faire, je vais les lister après.
alors avant, enfin bon, il y a peut-être certains qui sont encore le cas. Il y avait deux types de plastiques, la marquette et le film. Aujourd'hui, en fait, les industriels essaient d'avoir le même type de plastique. Donc certains, ils sont arrivés aujourd'hui. Donc c'était PET et polyéthylène par-dessus. Et là, aujourd'hui, c'est que du PET, donc c'est plus facile à recycler. Et donc, c'est, en fait, je pense qu'ils se sont jamais posé la question, en fait, est-ce que ça rentre dans une filière de recyclage ou pas? Et on leur a demandé de le faire, et du coup, ils ont trouvé des solutions. Voilà. Donc, effectivement, dès qu'on mélange des plastiques, ça peut être un problème, mais on peut trouver des solutions. Et c'est pareil pour tous les autres cas, en fait, hein. C'est juste qu'il faut y aller, quoi. Il faut se mettre en mode brainstorming et trouver des solutions pour remplacer ces matériaux.
Par rapport du coup à la quantité de, donc là on comprend qu'il y a en effet des difficultés en fonction des différents, si on mixe les différents matériaux, si on prend différents matériaux entre eux, ça va être difficile de, enfin si on fait des produits avec plusieurs matériaux, ça va être difficile de les recycler in fine, enfin ils sont pas recyclables, parce qu'il n'y a pas les filières ou autre, ou en tout cas c'est peut-être difficile pour certains d'entre eux. Quel pourcentage on a de, si on reste uniquement franche, parce qu'il y a d'autres types de chiffres qui existent sur Europe, monde ou pas, sur la quantité de plastique qui est qui est mis disons dans une filière
qui est recyclé effectivement.
Enfin, qui en tout cas qui commence cette filière là quoi, qui démarre la filière recyclée in fine, je sais pas, mais est-ce que déjà t'as une perte entre les deux, entre le moment où tu prends le produit chez toi et au moment où il arrive dans le lieu d'incinération, enfin d'incinération,
il faut,
de recyclage.
Il faut par exemple, un petit exemple, il faut 4 bouteilles pour fabriquer 3 bouteilles à partir de recyclé. Voilà.
Okay.
Donc une petite perte. Voilà. En fait, aujourd'hui en France, on recycle, enfin ce qui rentre dans les filières de recyclage, on est autour d'une trentaine de pourcents quoi, de plastique. Pour les bouteilles, on est plutôt dans la soixantaine hein, de pourcents. Donc parce que ça fait plus longtemps qu'on s'y est mis. Et qui a une valeur aussi de ce plastique-là a une valeur en fait, il est très demandé. Dans le monde, on est à 9%.
Okay.
Mais grand max. Hein. Par exemple, aux États-Unis, on doit être à 4, quelque chose comme ça. Effectivement recyclé, 4%. Le reste, ils ont tendance à l'exporter. Donc, en fonction des pays, c'est très très variable. Il y a aussi une chose, c'est que la définition de recyclage est différente d'un pays à l'autre. Par exemple, en Europe, c'est pas la définition n'est pas tout à fait la même. Et par exemple, en Allemagne, le recyclage du polyéthylène, par exemple, il se fait en le mélangeant avec un autre matériau pour faire une espèce de matière qui a absolument aucune valeur, et en font des pots de fleurs, comme ça. Et c'est pas vraiment, pour moi en tout cas, du recyclage qui donne de la valeur à la matière. C'est vraiment, bon, on sait pas trop quoi en faire, on va le mettre dans une filière, puis on va faire un truc à la fin. C'est pas comme ça qu'on doit penser le recyclage. Ça doit servir à remplacer une matière, et donc à gagner en termes d'utilisation de matières premières. Voilà. Et ça doit avoir un impact positif, c'est ça que je veux dire. Et dans ce cas-là, ça l'est pas. Donc effectivement, la définition de ce qu'est le recyclage et quelle est sa finalité, il doit y avoir une harmonisation en Europe, j'espère pour bientôt, et dans le monde, j'espère aussi un jour, parce que clairement, on n'a pas du tout la même manière de voir les choses. Mais globalement, c'est 9% dans le monde et une trentaine de pourcents en France.
Et pourquoi c'est aussi peu?
Alors pourquoi c'est aussi peu? Parce que mettre en place des filières, ça coûte de l'argent. et que en plus la problématique, elle est arrivée, elle est très récente en fait. Les gens ne sont pas forcément poser la question. En fait, ils ont créé des filières quand il y avait un intérêt économique. Recycler des bouteilles, ça a un intérêt. Là, c'est clair, parce que ça permet de fabriquer ensuite du, ce qu'on appelle le polyester pour ensuite fabriquer des pulls, etc. Enfin, il y a un intérêt, quoi, derrière. Par contre, recycler des films, bon, un moyennement d'intérêt, et recycler des pots de yaourt, c'est pareil, enfin, moyennement d'intérêt. Plus, c'est un peu compliqué, donc, voilà, ils sont pas lancés là-dedans. L'intérêt économique était pas là. Aujourd'hui, étant donné qu'on demande à ce que l'ensemble des emballages plastiques soient recyclés en France et en Europe, et que la matière recyclée a une valeur parce que finalement, dans toutes les applications, et pas que dans l'emballage, utiliser du recyclé, ça veut dire finalement réduire l'impact environnemental de son produit aussi, il y a un peu plus d'intérêt économique. Je sais pas si tu vois le truc, c'est que on a créé cette... on a créé le besoin, quoi. Du coup, l'intérêt. Et du coup, bah, il y a une demande.
Parce que initialement, si tu reprends un peu le pot de yaourt, c'est peut-être pas le bon exemple, parce que je comprends que c'est pas recyclable selon ce que tu disais, mais si on prend la bouteille, par exemple, donc on a, 4 bouteilles qui, in fine, en font 3. Déjà, pourquoi est-ce qu'on passe de 4 à 3? C'est parce que t'as une déperdition au moment de la quantité de bouteilles qui est, mise dans la chaîne, ou est-ce que t'as aussi une déperdition au moment où tu vas recycler le produit? Ça, c'est une première question.
Non, c'est juste dans la filière, enfin, c'est uniquement dans la filière de recyclage, en fait, et de la perte. Quand on voit le procédé, on s'en rend bien compte, en fait.
Ok.
Oui, vas-y.
Non, donc en fait, c'était ma question. Du coup, t'as une perte de matière quand tu vas recycler cette matière-là. Tu vas avoir une partie qui va être perdue. Comment est-ce qu'elle est perdue? Elle s'évapore? Elle devient quoi, cette matière-là? Elle n'est plus utilisable?
Non, elle n'est plus utilisable. Non, elle est récupérée, elle est incinérée, en fait. C'est que simplement, bon, la bouteille, elle est broyée, elle est lavée, elle passe dans différents bains, ensuite elle est chauffée. Enfin, il y a tellement d'étapes. À chaque étape, on perd un peu. Quoi. On peut pas faire du 100%, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on perd. Mais c'est le cas, quels que soient les matériaux, en fait. C'est pas spécifique au plastique. Hein. Mais c'est bien d'avoir ça en tête. On se dit, on passe de 4 à 3. Ça permet de donner une idée de ce qu'on perd.
Ok. Et sur cette partie-là, donc on a toute cette déperdition. Une bouteille classique transparente peut redevenir une bouteille classique transparente.
Oui.
Ou pas. Ok.
Ah donc, oui, tout à fait. Ouais. Oui. Alors bien. Après, faut un peu plus qu'une bouteille pour faire une bouteille. Mais oui. Ouais. Voilà. Mais en fait,
75 bouteilles, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est ça aussi. Bon, il y a certaines idées reçues qui disent que le plastique est pas recyclable. Ça fait longtemps qu'en fait que ça existe. Enfin, c'est ça qui. Ça fait très longtemps que ça existe. Pour avoir travaillé dessus, on peut recycler sans ajout de matière première vierge, c'est-à-dire sans rajouter du neuf, en gros. On peut recycler 3 à 4 fois à peu près une bouteille au contact des aliments, c'est-à-dire pour en faire une bouteille d'eau. Après, ça peut être un peu plus si on en fait derrière un fil textile. C'est un peu plus. Parce que on n'a pas besoin du même niveau de qualité. Par contre, si on commence à le mélanger, imaginons qu'on mette 50% de recyclé, 50% de vierge pour faire une bouteille, bah là, ça peut être beaucoup plus. Donc, qui est assez étonnant, moi, je trouve, c'est que il n'y a qu'au plastique qu'on demande d'être recyclable à l'infini sans ajout de matière première. Les aciers, l'aluminium, le verre, le papier, il y a toujours ajout de matière première. Toujours. Parce qu'en fait, on va adapter la composition de la matière. Toujours. Donc, c'est vrai que c'est assez... Enfin, le débat sur le sujet, moi, je le trouve un peu étonnant. Mais après... Mais je viens de clarifier, je pense, le sujet.
Ouais, on va y revenir juste après. Du coup, si je reviens, je reste sur ce recyclage, toute cette chaîne. Tu disais juste avant que on a, entre guillemets, créé, disons, le besoin. On a créé, disons, la filière de, ben, on va utiliser ce recyclé, ce qui n'était pas le cas avant, parce que ça coûte plus cher, du coup, de faire du recyclé vers du non recyclé, parce que c'est quoi? C'est plus de matière, enfin, c'est parce que l'énergie coûte plus cher et donc t'as moins de matière. C'est quelle est la raison pour laquelle ça coûte beaucoup plus cher de faire du recyclé versus de repartir de zéro, on va dire, pour l'industriel?
Alors, ça coûte pas forcément plus cher. En fait, ce qui coûte cher, c'est, tu veux, avant, on prenait la matière, on la mettait à incinérer et c'était fini. Là, il y a toute une filière. La création de la filière, le maintien de la filière de recyclage, c'est ça qui a un coût, en fait. La matière recyclée, elle peut prendre de la valeur et même être plus chère que la matière vierge, parfois, parce que la demande, elle est énorme. En fait. Parfois, la demande est plus importante pour du recyclé que pour du vierge. C'est là où le coût aussi, tu vois, il peut fluctuer. Après, le coût En fait, le plus important, c'est le coût initial de création de cette filière. Puisque si t'as rien au départ, et que tu crées tout, un ensemble d'intervenants, etc., c'est assez compliqué. Et c'est là où les industriels disent, bon, est-ce que je vais aller là-dedans ou pas? Et ils n'ont jamais fait. Le plastique qu'on utilise pour les bouteilles, il est utilisé dans énormément de domaines. Vraiment énormément de domaines. Et des domaines où comment dire, le fait d'utiliser du recyclé a un intérêt. L'habillement, quand on utilise du recyclé, ça fait chuter énormément l'impact environnemental du vêtement. Donc, il y a un intérêt derrière, ne serait-ce qu'en termes de communication de la part de l'entreprise, quoi. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a des raisons comme ça qui font que bah, il y a des demandes qui explosent sur certains plastiques, quoi.
Pour terminer sur cette partie recyclage, quand tu es du coup dans cette chaîne-là, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc la bouteille arrive, tu me disais elle est lavée, etc. Donc elles sont ensuite broyées en, on peut imaginer, en petits bouts. Oui. Microplastique, du coup, on les appelle aussi ces bouts-là?
Ah non, c'est plus gros, du coup, macroplastique. Des pellettes, c'est des pellettes. Petites paillettes.
Ok, des petites paillettes, ok. Elles sont broyées en paillettes. Donc après, on a le ratio dont tu disais à peu près pour les bouteilles. Est-ce qu'on va rajouter un composant ensuite par la suite pour refaire une bouteille d'eau? Ou est-ce qu'on va juste, je sais pas, de la chaleur ou autre pour ensuite recréer cette même bouteille? Est-ce qu'on rajoute, je sais pas, du sable, d'autres matières premières? Comment ça se passe?
Ah non, on fond. En fait, on fait fondre. Okay. Et puis, on crée une nouvelle bouteille.
Ok.
C'est tout.
Aussi simple
tout
que ça.
Simple. Okay. Ouais. C'est tout bête. Mais, enfin, tout bête, non, c'est pas si simple que ça. Mais le procédé, il est quand même, quand on l'explique, assez simple.
Ok. Par rapport à ce plastique, il y a d'autres type de matière qui existe, notamment, on parle souvent de recyclé, bon, en fait il n'y a pas de différence, c'est juste qu'il a été recyclé, on parle de compostable, on parle d'autres sujets, quelle différence on a entre ce compostable-là et le plastique de base qu'on va avoir dans d'autres produits en fait?
Alors, le compostable, ça signifie que le plastique, quand c'est un plastique compostable, quand on le met dans un composteur domestique, c'est-à-dire à la maison, il va se dégrader en quelques semaines. Alors, si on entretient son composteur, etc., faut quand même bien l'entretenir. Par contre, enfin, là où le consommateur, je pense, il s'y perd complètement, c'est que il y a plusieurs termes. On utilise souvent le terme biodégradable, par exemple. Biodégradable, ça veut dire que la matière, elle va se dégrader en présence de micro-organismes. Okay. Mais ça dit pas en combien de temps. C'est court, mais on se bat en combien de temps. Et ça donne pas forcément l'indication du où, parce que en fait, ça dit pas dans un composteur ou dans la nature, ou rien. C'est juste voilà, quand il y a des micro-organismes, ça se dégrade. Compostable, il y a deux types en fait de matières compostables. Il y a les matières qui sont compostables dans un composteur domestique, donc à la maison. Et ceux qui sont compostables dans un composteur industriel. Et ça n'a rien à voir. Parce qu'un composteur industriel, il faut chauffer le sol, enfin la terre dans laquelle on va mélanger le plastique, pour que ça se dégrade. S'il n'y a pas cette chaleur, ça ne se dégrade pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a fait un produit emballé, l'emballage est écrit compostable industriel. Si on ne met pas dans une poubelle spécifique pour qu'il soit composté en milieu industriel, il ne va jamais se dégrader. Il se retrouve dans la nature, il se dégrade pas. Mais ceux qu'on retrouve dans les composteurs à la maison, si on les jette dans la nature, ils vont pas non plus se dégrader vite. Pourquoi? Parce que la nature, c'est pas un composteur. T'as rien à voir, en fait. Les conditions dans un composteur très spécifiques. Et donc, il faudrait avoir vraiment du bol pour que la matière se retrouve exactement dans les conditions qu'on a dans un composteur. Donc, quel que soit le plastique, on ne le jette pas dans la nature. C'est pas parce qu'il est compostable qu'il va se dégrader vite dans la nature. Et autre point, l'ANSES, qui est un organisme français, hein, tout ce qui est études sur les produits chimiques et la santé, recommande de ne pas mettre les plastiques compostables dans le composteur à la maison. Pourquoi? Parce que généralement, on l'entretient moyennement, son composteur. Le plastique va faire des microplastiques, va se dégrader, en fait, il va se fragmenter, il va se retrouver dans le sol. On va l'utiliser pour faire pousser nos légumes et il va ensuite diffuser dans le sol et il ne se dégradera plus. Donc, il faut éviter, en fait, les plastiques compostables. Okay, voilà. Il ne faut pas les jeter dans un composteur. Du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Effectivement, oui.
Et du coup, ces plastiques compostables, ils ne sont pas, disons, vraiment compostables parce que il n'y a pas assez de micro-organismes qui vont aller manger, disons, ces différents microplastiques. En fait, il en restera toujours un peu. C'est un peu ça.
C'est ça, oui, effectivement. Alors que ce soit biosourcé, pas biosourcé, alors encore une fois, là, il y a encore de la terminologie que le plastique soit issu des plantes, de la biomasse ou issu du pétrole, s'il est compostable, ça ne change rien. En fait, le fait qu'il soit issu des plantes ne veut pas dire qu'il va mieux se être, enfin, il va sera plus compostable, qu'une matière qui est issue du pétrole. Ça n'a rien à voir. L'origine du plastique ne conditionne pas sa fin de vie. Voilà. On peut avoir des plastiques biosourcés qui ne sont pas compostables. Et des plastiques issus du pétrole qui sont compostables. C'est là où je pense que les gens sont complètement perdus. Là, j'ai perdu tout le monde.
Non, du tout. Quand tu parles notamment des plastiques biosourcés, ces plastiques biosourcés-là, est-ce qu'ils ont un impact différent par rapport à, donc, quand on parlait tout à l'heure de la chaîne, voilà, le plastique se dégrade dans la nature, fait des microplastiques, va dans la mer, etc. 80% de la terre, bref. Est-ce qu'ils ont un impact différent après sur, les additifs qui sont ensuite qui se dégradent et autres, ou est-ce qu'il y a
Non.
une différence?
Ah non, il n'y a pas de différence. En fait, on peut avoir, par exemple, je reprends mon exemple du polyéthylène. On peut avoir un polyéthylène issu du pétrole ou biosourcé. C'est exactement la même molécule. Donc elle va se dégrader exactement de la même manière, c'est-à-dire pas du tout, dans l'environnement. Voilà. Donc biosourcé, c'est vraiment que je récupère mes molécules de la biomasse, je fais mes petites chaînes carbonées et je crée un plastique. Donc en fait, ce qui compte, c'est pas l'origine du plastique, ce sont ses propriétés, enfin sa structure chimique. Donc ça n'a absolument rien à voir. Enfin voilà, c'est biosourcé ne veut pas dire ça va mieux se dégrader dans la nature et c'est comment dire plus comment est-ce qu'on peut dire ça? Que sa dégradation va générer des molécules qui vont être mieux acceptées, enfin voilà, plus je perds mes mots, mais en gros qui sont plus positives, voilà, pour l'environnement, c'est-à-dire que sans impact, non, c'est pas le cas en fait. Il y aura un
Et donc,
impact.
du coup, tous ces différentes matières-là, que ce soit le compostable, le biosourcé, le plastique classique, on va dire, enfin, en tout cas, le plastique issu de pétrole et autres, la seule règle, on va dire, c'est de les mettre dans une poubelle qui va ensuite aller dans la chaîne de recyclage, en espérant que cette chaîne-là puisse aller en faire quelque chose, quoi.
Ouais, tout à fait. À partir du moment où l'emballage peut se trier, elle est dans la poubelle de tri, il faut le mettre dedans, quoi. Faut pas, voilà. Et si on peut pas le mettre dans la poubelle de tri, il vaut mieux le mettre dans une poubelle normale. Voilà, poubelle des déchets ménagers. C'est un peu triste de dire ça, mais effectivement, c'est préférable que de le mettre dans un composteur où ensuite il va venir polluer les sols, quoi.
Ok, très clair. Donc c'est-à-dire que le plastique compostable doit être mis dans la poubelle de, enfin doit
Déchets
peut être
ménagers,
mis
oui.
dans les déchets ménagers, quoi, en gros.
Ouais, parce
Donc
qu'il
la
peut pas être
recommandation, c'est ça.
recyclé. Il sera pas recyclé puisqu'il n'y a pas de filière pour ça.
Ok. Ah oui, c'est parce qu'il n'y a pas de filière qui peut pas être recyclée. Ok, ça marche. Parce que on est parti du principe que l'individu pouvait le composter. Ok, pouvait le composter. Ok. Ok, très bien. Tu parlais juste avant du biosourcé et des différents plastiques issus de coup du pétrole et autres. L'amont aussi est important dans le sens où on a des émissions de gaz à effet de serre issues de cette production-là et aussi bien entendu du recyclage, etc. Où est-ce qu'on en est sur la différence entre l'impact carbone sur du plastique vs un autre matériau, les autres matériaux qui sont potentiellement développés, je sais pas, le verre pour remplacer les bouteilles ou d'autres types de matériaux que j'ai plus trop en tête pour remplacer le plastique également. Comment est-ce qu'on se situe par rapport à ça?
Oui, alors ça peut être du carton, ça peut être des métaux, ce
Ouais,
genre
ouais.
de choses. Alors le plastique est plutôt bien placé, c'est-à-dire qu'en fait, il en faut peu pour les mêmes fonctions qu'un autre matériau, en fait. Du coup, son impact, il est très faible, puisqu'il en faut pas beaucoup en poids. Et généralement, c'est lui qui gagne en termes d'émissions de CO2. C'est pour ça que c'est pas forcément le seul critère qu'il faut prendre en compte. Quand on regarde les impacts, il faut tout regarder, la création de déchets, etc. Mais même sur le papier et le carton, il peut avoir un impact plus positif, notamment quand on le recycle. Parce que, en fait, c'est quand même assez. Je pense que c'est quelque chose que je vais t'apprendre, mais le seul matériau dont l'impact est négatif quand on le recycle, enfin négatif, qui a un impact plus important quand on le recycle, c'est le papier.
Ok,
en
pourquoi?
fait. Parce que quand on le recycle, on utilise des énergies carbonées, en fait. Et du coup, c'est ça qui va générer un impact CO2 plus important que pendant sa production initiale, où là, on va le récupérer des forêts, donc impact négatif, etc. Du coup, le delta, il n'est pas très, enfin, il est pas intéressant, quoi, quand on recycle.
Ok.
Au niveau environnemental, hein, bien sûr. Voilà. Donc, ça,
Ok.
c'est. Mais par contre, sur tous les autres matériaux, il y a un gain à recycler. Et c'est vrai qu'en termes d'impact, oui, le plastique est bien placé. Mais par exemple, je vais donner l'exemple des pailles en plastique. Il y a eu une interdiction sur les pailles en plastique jetables. Quand on regarde les impacts, alors, sur les utilisations diverses et variées, avec, même en comparaison avec du réutilisable en bambou, en acier ou autre chose, la paille en plastique jetable, elle gagne, mais très largement sur tous les autres types de matériaux. Là où je pense qu'on atteint les limites de l'analyse de cycle de vie, qui permet de déterminer cet impact CO2, c'est qu'on ne prend pas en compte les risques de pollution. Une paille en plastique, ça vole facilement, très facilement. Et c'est un matériau qui se retrouve très facilement dans la nature, et donc avec des impacts directs sur la biodiversité. Et ça, c'est pas pris en compte. Donc, même si on se dit, OK, côté CO2, le plastique, dans certains cas, c'est un bon matériau parce que finalement l'impact est faible. Il faut prendre en compte les autres aspects que sont la création de déchets. Ça, c'est le cas quand on utilise du jetable, et l'impact sur la biodiversité, sur l'environnement, autre que ce qu'on a dans les analyses de cycle de vie. Voilà. C'est pour ça qu'il faut prendre un peu de recul par rapport aux chiffres parfois.
Et donc justement, donc merci déjà pour en effet tu m'apprends quelque chose avec le papier, je ne savais pas ce sujet-là. Par rapport au donc en fait si on prend un peu de hauteur par rapport à tout ce qu'on a dit, donc déjà merci sur ces différents partages par rapport au plastique, on comprend mieux déjà la filière, les conséquences, les impacts et concrètement à quoi, comment est-ce que c'est créé, etc. Donc si on prend cette hauteur, en fait le gros sujet c'est surtout la quantité de déchets, ce que je comprends, et les filières qui n'existent pas sur ce sujet de plastique, en fait. C'est un peu ça, les deux gros... bien sûr, le plastique, en tant que le matériau, est top, dans le sens où on peut faire plein de choses avec. Après, il faut faire attention à comment est-ce qu'il est fait, etc. Donc, tu parlais notamment d'Europe vs l'étranger. Mais c'est en gros ça, les deux gros sujets.
Oui, c'est ça. Et en fait, ce qui est dingue, c'est, enfin, je trouve ça dingue, c'est que c'est quand même un matériau qui est génial dans certaines applications médicales, par exemple, l'aéronautique, l'aérospatiale. Enfin, c'est vraiment un matériau hyper performant. On l'utilise énormément dans le jetable. C'est un gaspillage de matière, moi, que je trouve assez hallucinant, parce que c'est une matière très performante, très durable. Et donc, moi, je pense que essayer de voir, enfin, de réduire ces quantités-là, alors on va pas y arriver du jour au lendemain, clairement, hein, mais voilà, petit à petit, réduire les quantités d'emballage, pas que plastique, tout, hein, de manière générale, mais surtout plastique, puisque c'est ce qu'on a en majorité. Bien les trier quand on a un déchet, il faut savoir le trier, le jeter dans la bonne poubelle, pour que la matière puisse être réutilisée ensuite pour fabriquer d'autres produits, et donc réduire nos impacts environnementaux, et ne rien jeter dans la nature. Ça, c'est clairement la première des priorités, quoi. Faut vraiment qu'on réduise un maximum tout ce qui diffuse dans l'environnement en termes de déchets. C'est super important. Et puis ensuite, effectivement, quand on crée un produit, on crée un emballage, on crée un jouet, on crée n'importe quoi, il faut penser à sa fin de vie, quoi. Il faut que les industriels se disent, voilà, je crée ce produit, il est génial, super performant. Qu'est-ce qui devient à la fin? Dans quelle filière il entre? Ça, c'est vraiment aussi une priorité pour faire en sorte d'éviter le grand n'importe quoi et la création de. C'est bien d'avoir des idées, hein, mais par contre, il faut que ça rentre dans un contexte éthique. Enfin, pour moi, c'est de l'éthique. Dans une démarche éthique, c'est ce qu'on fait quand on est scientifique. On a aussi cette démarche éthique. L'industriel doit avoir cette même démarche aussi quand il crée quelque chose et quand il crée un produit. Voilà. Ça me semble important. Ouais.
Par rapport à tout à l'heure, tu parlais notamment de l'exemple des États-Unis où tu pouvais avoir une petite partie malheureusement qui était recyclée in fine. Quelle est la destination de ces plastiques-là qui sont pas recyclés? Est-ce qu'on les envoie autre part? Qu'est-ce qui se passe? concrètement?
Ouais, alors, en fait, aux États-Unis, ils ont vraiment un gros problème, hein. C'est que ils envoient une grosse partie de leurs déchets à l'étranger. Et pas dans des pays qui sont en mesure de recycler, hein. Les pays qui disent recycler, bon, en fait, ils recyclent pas vraiment, quoi. Ils stockent quelque part. Et finalement, là aussi, on a un problème éthique quand même. C'est envoyer des produits dans un pays, on sait très bien que ça va pas être recyclé, mais en se disant, en gros, c'est leur problème, c'est eux qui les achètent. Enfin, voilà. Je trouve ça vraiment irresponsable. C'est-à-dire qu'en fait, la responsabilité des pays ne s'arrête pas à leurs frontières. La responsabilité des pays, elle est également sur les produits, les déchets qu'ils créent ou qu'ils les envoient. Donc, c'est là où moi je pense qu'il y a aussi une problématique qui est assez importante. Les États-Unis, c'est vraiment pour moi l'un des pires des cas. Et on peut retrouver des... Alors, la Chine a fermé ses frontières complètement. Donc, ils peuvent plus les envoyer là-bas. Ils peuvent les envoyer en Turquie, ils peuvent les envoyer dans des pays en voie de développement, des pays pauvres généralement, qui les brûlent à ciel ouvert, en fait. Donc, en fait, la population est exposée à des produits toxiques parce que brûler un plastique, alors, ne le faites pas à la maison surtout, brûler un plastique, c'est toxique. On ne brûle pas un plastique. C'est voilà, ça crée et génère des produits toxiques. Donc, quand on en brûle énormément, en fait, on va intoxiquer toutes les populations qui se trouvent autour. Donc, c'est vraiment, vraiment irresponsable ce qu'ils font. Donc, ouais, il y a un sacré problème aux États-Unis. J'espère qu'ils vont se réveiller et qu'ils vont traiter le sujet assez rapidement. À mon avis, c'est pas gagné, mais...
Oui, c'est pas ça. Ça prend justement du temps. Et comment est-ce qu'on peut, si on parle dans le futur, donc on comprend qu'il faut développer les différentes filières, qu'on a entre guillemets de l'avance, notamment en Europe. C'est pas le cas dans d'autres pays, hein, des pays où ça n'existe pas. Moi, j'ai vécu à Madagascar pendant 2 ans. Je vois que ça n'existe pas. En tout cas, ça existe très peu. Il y a d'autres manières d'utiliser le plastique là-bas qui sont, disons, plus informelles que formelles. Mais dans plein d'autres pays, en Asie, etc. J'avais pu interviewer d'autres personnes là-dessus. Je vous mettrai bien entendu les liens. Ça n'existe pas vraiment non plus. Donc, j'imagine une des mesures en effet, c'est de, en tout cas en Occident, d'aller réduire nos différentes quantités de plastique, créer ces différentes filières. Mais à l'étranger, vu que la filière arrivera et prendra sûrement un peu plus de temps, comment est-ce qu'on peut faire dans ces, j'allais dire pas dans ces pays-là, mais au global aussi chez nous, pour vivre sans plastique, pour se passer d'une partie de ce matériau qui est top, honnêtement, on peut faire plein de choses avec le plastique, sinon il n'y serait pas partout, sinon on ne l'utiliserait pas partout. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que j'imagine que c'est un peu les deux bouts qui doivent se rejoindre, et vu qu'on doit aussi aller vite sur ces sujets-là, pour pas se retrouver à avoir des microplastiques un peu partout, comment est-ce qu'on peut faire?
C'est là où c'est compliqué, parce que, en fait, on parle de pays en voie de développement. Donc nous, on en a profité des années, et puis là, on va leur dire, bon, excusez-nous, mais on s'est rendu compte qu'on a fait n'importe quoi. Donc, si vous pouviez éviter de faire la même chose, enfin, c'est quand même, c'est, en fait, on a développé notre société avec ces matériaux, avec cette, parce que il n'y a pas que le matériau, il y a la manière dont on consomme aussi. Et du coup, ça voudrait dire, leur dire, ne consommez pas comme nous. Il y a quand même un problème, je pense. C'est comme quand sur le sujet énergie, on va leur dire bah non, excusez-nous, hein, n'utilisez pas de fossiles parce que bah c'est pas une bonne idée, alors qu'en fait ils essaient de se développer. Enfin, c'est il y a ce débat-là à avoir. Moi, je pense que on pourrait en fait leur transmettre notre, on va dire notre retour d'expérience pas très très bon et les conséquences qui peuvent être directes en fait sur leur comment dire leur pays et l'endroit où ils habitent. Mais effectivement, les aider à créer des filières, éviter d'exporter certains produits ou en tout cas les aider à développer un mode de consommation qui soit un peu plus comment dire respectueux de l'environnement aussi, créer moins de déchets. En fait, développer ce que nous on fait chez nous, mais également chez eux, c'est-à-dire essayer de transposer ça et travailler avec eux là-dessus. Mais honnêtement, ça me paraît extrêmement compliqué. Quand je vois comment ça se passe sur d'autres sujets, plus importants, il n'y a pas d'importance, mais je dirais plus, avec beaucoup plus d'impact environnementaux en termes d'émissions de CO2, etc. Je me dis, sur la question des déchets, comment est-ce qu'on peut mobiliser tout le monde sur ces sujets-là? Quand je vois comment se passent, comment dire, les grands, comités, internationaux sur les sujets, etc., pour moi, c'est plus de la com que vraiment, voilà, on mobilise des actions, etc. J'ai vraiment du mal à voir comment on peut procéder. pour moi, il faut les accompagner, il faut pas leur faire la leçon, parce que c'est franchement pas utile, on n'est pas en mesure de faire la leçon. Il faut les accompagner et partager avec eux les solutions qu'on pense être applicables. Mais attention, certains pays ont des spécificités, la chaleur, l'humidité, etc. Et toutes nos solutions ne sont pas applicables chez eux. Donc voilà, essayer d'adapter ça et travailler avec eux sur ces solutions-là. Ça me semble être le plus important, ouais. Effectivement. Mais là, quoi, il y a du boulot, hein.
Est-ce qu'il y a des filières qui existent à l'étranger? Enfin, du coup, en Europe, je comprends qu'on est assez avancé là-dessus sur certains types de plastique. D'autres qui n'existent, ou en tout cas, pas de filières qui, certaines filières n'existent pas. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, dans le globe où on a des filières quand même qui se développent, un minimum rapidement, ou en tout cas sur une, qui ont du potentiel pour l'avenir?
Des filières de recyclage?
Ouais, exactement, ouais.
Alors, il y a des pays qui ont, bah, par exemple sur le polystyrène, certains pays ont des filières pour recycler le polystyrène. En Europe, hein, il y en a une en Allemagne et une en Espagne. Il y a des choses qui se font. Après, il y a des initiatives locales pour. Alors, c'est pas vraiment recycler, mais c'est réutiliser la matière pour fabriquer d'autres choses, des briques ou des choses comme ça.
Okay.
Ce sont pas forcément des solutions pérennes, ça c'est clair. En France, on développe tout ce qui est recyclage enzymatique aujourd'hui. Je pense que certains ont entendu parler. Mais on ne peut recycler qu'une petite partie des plastiques qui sont déjà bien recyclés, enfin qu'on sait recycler. Donc l'intérêt, faut voir s'il y a un intérêt derrière au niveau technique. Mais en fait, alors moi j'avais travaillé dessus pendant ma thèse. Déjà pendant ma thèse, on essayait de trouver des solutions de recyclage. Autre que juste on fait fondre et puis on fabrique un autre produit. C'est pas évident. Et j'ai l'impression qu'en fait, on a avancé, hein, mais on n'a pas avancé très très vite en une quinzaine d'années. Donc, les initiatives existent. Après, j'ai quand même l'impression que c'est un peu... Il y a quand même beaucoup de com', quoi. Beaucoup de com'. Derrière le concret, vraiment l'innovation technique, pas des maths, quoi. C'est pas... Parce que finalement, on est face à une situation où si on travaille pas en amont, bien en amont sur les produits, etc., bah, au final, on va se retrouver avec des difficultés pour le recyclage, quelle que soit la méthode. Donc, c'est pas juste un sujet sur comment on développe une nouvelle manière de recycler. C'est comment on fait en sorte qu'à la fin, on arrive à recycler le produit qu'on va jeter, quoi. Et je pense que rien que ça, là, cette philosophie-là, j'ai l'impression qu'on l'a pas encore tous. Enfin, on est plutôt orienté sur, voilà, on a ça, comment on recycle? Sans se poser des questions sur ce qu'on a. Voilà.
Très bien. Non, mais ça veut dire que c'est important de comprendre la finalité, comme tu dis, de comprendre ça vient de l'amont. Il faut savoir comment est-ce que le produit est fait initialement et ensuite, bien entendu, faire en sorte que ça aille dans cette chaîne-là et développer au maximum les différentes filières ou en tout cas inciter les différents industriels à soit développer ces filières-là parce qu'il y a ce besoin-là, soit avoir des réglementations comme on peut avoir en Europe, hein, qui aident aussi sur ça et concrètement agir progressivement sur cette thématique sans se dire du jour au lendemain qu'on abandonnera le plastique, parce que je pense pas que ça soit souhaitable non plus. Ce qu'il faut, c'est arriver, comme tu disais, à réduire la quantité de déchets et faire en sorte d'utiliser le moins possible de plastique et d'optimiser au maximum ces différentes filières. Je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu nous as partagé, Kako, aujourd'hui. Je te propose de passer aux questions de fin. D'abord, est-ce que tu as un contenu à nous partager qui t'a marqué?
Alors, il y a un livre qui s'appelle « Inventer l'avenir »,
okay.
qui est en fait un livre qui est rédigé par des chercheurs du CNRS sur le sous-titre, c'est « L'ingénieurisme ouvert ». En gros, c'est, voilà, nous, scientifiques, on se pose aussi des questions éthiques sur, bah, quand on innove, quand on crée quelque chose, est-ce que c'est viable d'un point de vue environnemental, en termes d'impact environnemental. Et toute cette démarche, en fait, prise en compte de plein de disciplines différentes, pas uniquement de l'ingénierie ou de la science, mais aussi l'impact sociaux, sociétaux, environnementaux, etc. Moi, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Enfin, vraiment, ce livre-là, il est un peu technique, mais tout le début parle vraiment de la démarche. Et moi, j'ai trouvé passionnant. Voilà. Donc, ça s'appelle « Inventer l'avenir » et c'est issu du PNAS.
Très bien, moi je mettrai le lien en description. Est-ce que tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens?
Oui, trier ses déchets. trier ses déchets et ne jamais rien jeter dans l'environnement. Même un trognon de pomme, on ne le jette pas dans l'environnement. C'est que c'est, on se dit, ouais, c'est vert, ça va se dégrader tout seul. Non, on ne fait pas ça. On ne jette pas ses déchets dans l'environnement. On jette dans une poubelle et dans la bonne poubelle, notamment la poubelle de tri pour les emballages. Voilà.
Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast?
Alors, je pense à Greg de Temmermans, Grégory Temmermans. Alors, il est plutôt côté énergie, mais il a beaucoup travaillé sur les sujets des mines, notamment l'impact des métaux. Et je pense que c'est un sujet d'actualité où il y a tout et n'importe quoi qu'il dit. Et je pense qu'il pourrait vraiment clarifier ce sujet-là.
Ok, très bien.
S'il n'a pas déjà été invité.
Non, il n'a pas été déjà invité, mais je l'avais bien l'invisibilité, donc c'est top, nickel. Ça ajoute de l'intérêt pour Greg, bien entendu. Il sera bien entendu contacté. Merci une nouvelle fois, Kako, pour ton temps. Si on souhaite te retrouver, te suivre, en savoir plus sur ces sujets-là pour continuer à comprendre davantage ces thématiques de plastique, comment est-ce qu'on peut le faire?
Alors, on peut le faire sur Twitter.
Ok.
Donc pseudo Cacoline. Je pense que okay. Tu mettras peut-être le
nom ouais, bien sûr.
Rédigé. Et puis j'ai un blog aussi sur ces sujets-là. Donc tous les threads, tous les fils Twitter que j'ai rédige, je les mets ensuite sous forme d'article parce que parfois okay. C'est plus facile à lire sur mon blog. Voilà.
Ok, nickel. Bon, je mettrai les différents liens. Une nouvelle fois, merci beaucoup pour ton temps.
Merci à toi.
Kako et à très bientôt.
À très bientôt.
Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque-là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite !